I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, la musique. Cette émission est préparée par Justine Dibling, Virginie Ledio et Boris Spino. Prise de son assurée ce soir par Jean-Richard Dufour. Réalisation signée Daniel Finot. Ce soir, Marie Audroux et Emmanuel Giuliani se font face à l'affiche de la dernière émission de la sixième saison de La Dispute. Othello de Verdi, dirigé par Antonio Pappano et mise en scène par Keith Warner au Royal Opera House de Londres. Il Trionfo del Tempo e del Desinganno de Handel, dirigé par Emmanuel Haïm, mise en scène Christophe Walikowski. C'est un DVD qui vient de sortir chez Erato, DVD et Blu-ray. Puis nous parlerons également du CD de La Belle Maguelone. Je ne le ferai pas en langue allemande, vous le ferez vous-même. C'est bien sûr de Brahms, c'est par Christian Gerhardt et Gerold Huber. Et c'est chez Sony. Vers 21h20, Xavier Martinet nous entraînera dans le petit salon pour parler de Demos, le dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale. Voilà ce qui se cache derrière l'acronyme. Il y aura des cadeaux, pas des gâteaux, à gagner grâce au jeu de la dispute. Ce sera peut-être après cette dernière. Ce soir, des passes pour visiter le château des Ducs de Bretagne à l'occasion du festival de voyage à Nantes du 1er juillet au 27 août. Et nous ouvrons cette émission avec donc une nouvelle production d'Othello de Verdi, direction Antonio Pappano, mise en scène Keith Warner, Royal Opera House de Londres, opéra en quatre actes sur un livret d'Arrigo Boito d'après l'Othello de Shakespeare, créé à la Scala de Milan en 1887. Quand même, je rappelle très rapidement qu'au XVIe siècle, donc le général Othello arrive à Chypre en vainqueur. Il a vaincu la marine turque en Méditerranée et donc assuré que Venise garde le contrôle sur cette île. Mais on sait bien que la vengeance, le complot, la jalousie vont mener à la tragédie. Jonas Kaufmann fait dans cette production ses débuts dans ce rôle. Événement donc. Beaucoup d'attentes, trop d'attentes pour interrogation. Nous n'avons pas d'extrait de cette production, mais Emmanuel Giuliani nous a signalé, il a eu la présence d'esprit de nous dire, mais allez donc chercher dans ce DVD du fameux soirée de galets à Baden-Baden où Jonas Kaufmann chantait le duo d'amour du premier acte d'Othello avec Anya Arteros. Le DVD est édité par Sony, comme ça, grâce à lui, nous avons l'air en question.
Tuoni la guerra e sinabili.
Mariodro, vous vouliez qu'on laisse les 15 minutes de ce duo, mais vous savez que l'émission n'étant pas extensible, et en plus c'est même pas, je le rappelle, un extrait de la production de Londres, mais ce que nous écoutons c'est un récital de Baden-Baden il y a un an à peu près, dans lequel on entendait donc Jonas Kaufmann avec Anya Arteros dans ce duo d'amour. Mais commençons avec vous Emmanuel Giuliani, en reprenant le titre de votre article dans la Croix, Anatomie d'une déception.
Oui.
Alors, déception. La déception demeure, avez-vous tweeté.
La déception demeure. Alors, une déception globale, après il faut nuancer des chapitres très décevants et d'autres qui le sont moins, notamment ceux qui relèvent de la star Jonas Kaufmann. Alors c'est vrai que c'est un événement parce que c'est le premier Othello, le nouvel événement, on en parlait, ce sera le Tristan que fera Jonas Kaufmann, on l'espère, dans quelques années. Là, Othello, on savait en tous les cas dans le répertoire italien que c'était le rôle des rôles qu'il allait finir par aborder, qu'il avait eu la prudence, à raison, d'attendre d'aborder parce que c'est un rôle terrible. Et vocalement, on a entendu à quel point le personnage va dans le grave de la tessiture, mais aussi l'aigu. C'est un rôle qui commence avec une vaillance incroyable, avec le fameux Esultate, quand il revient victorieux, comme vous l'avez dit, des troupes turques, et puis qui se termine dans cette scène de meurtre et de mort. Et il sera passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, les plus sombres d'ailleurs de la psychologie entre-temps. Donc c'est un rôle extrêmement demanding, comme on pourrait le dire.
Exigeant, allez, voilà, traduit exigeant. Directement.
Évidemment, ce qui aurait été souhaitable et qui n'est pas le cas malheureusement à Londres, c'est que l'ensemble de la production, et musicalement et scéniquement, et le reste du plateau, soit à la mesure de notre attente et globalement de la performance de Jonas Kaufmann. Et de même qu'une hirondelle ne fait pas le printemps, un admirable chanteur ne fait pas une très grande production quand il y a des problèmes à l'orchestre, une mise en scène sans grand intérêt, avec peu d'idées, le peu qu'elle a ne sont pas du goût le plus exquis, et le reste du plateau qui peut avoir de très 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 bonnes, non pas surprises, parce qu'on pouvait s'y attendre, comme le Cassio de Frédéric Antoun, qui est absolument formidable, mais ça a beau être un rôle important, ce n'est pas un rôle essentiel, ça pêche surtout par un mauvais Iago.
Le méchant n'est pas bon...
Voilà, comme disait Alfred Hitchcock. Bah oui. Voilà, exactement. Et on regrette d'autant plus la présence de
l'absence.
Non, on regrette la présence et on déplore l'absence.
Oui,
on déplore d'autant plus l'absence de Ludovic Tézier, qui était prévu pour ce rôle et dont on sait qu'avec Jonas Kaufmann, ils font une paire absolument superlative. Mais voilà, ce n'était pas le cas. C'était Marco, je crois, son prénom.
Vratonia.
Et qui n'est pas fait un méchant bien conventionnel, et pas forcément toujours très bien chantant.
Mmh. Impression d'ensemble, Marie Audreau, pour vous ?
Moi, j'ai essayé de me protéger de la déception, ce qui fait que j'ai un petit peu écarté, je dirais, comme vous savez, dans une assiette, quand on n'aime pas des trucs, on les met sur le bord.
Vous faites ça, vous ?
Et c'est vrai que j'ai quand même... j'allais dire kiffé, non, je ne veux pas dire ça comme ça, mais j'ai quand même...
Je
suis restée vraiment scotchée à mon Jonas pour vraiment
vous
suivre...
Vous avez kiffé sa vibe,
voilà,
c'est ça.
Les moindres méandres de son chant, enfin la moindre intonation. Et c'est vrai qu'effectivement, Emmanuel a raison, on était quand même, j'allais dire, gênés par ce qui entourait. Mais je trouve quand même que c'est une prise de rôle qui est très intéressante parce que justement, elle est très très personnelle. Encore une fois, c'est pas quelqu'un qui va se conformer à des diktats de goût, de convention ou de tradition. Il a fait preuve de cette fameuse vaillance qu'on demande, la première grande phrase qui est absolument immense et qui vraiment, où là, il donne tout. C'est vraiment, on a envie de dire après, bon, il peut aller se coucher, mais bon, en l'occurrence,
en fait,
il y a tout, il y a tout l'opéra derrière. Et quand même, il faut tenir. Et puis, ce côté, ben voilà, le cantabilé, l'art de la nuance, ce personnage qui est presque un petit peu, je dirais, un Othello werthérien, très curieusement. Parce qu'on retrouve, moi, personnellement, j'ai retrouvé tout ce que j'avais tant aimé dans son Werther. Et bien sûr, c'est pas le même personnage, évidemment, mais il a teinté ce personnage de quelque, il a démonolithisé, je ne sais pas comment dire, parce qu'on a quand même entendu vraiment des Othello qui sont en gros des affreux bonhommes.
D'un bloc.
Voilà, des blocs, et qui se fissurent, mais qui se fissurent, je dirais, de manière un peu verticale. Lui, on a l'impression que les choses s'effritent progressivement par des endroits où on sait pas trop. Il y a quelque chose de très, très habité et de très psychologique dans ce personnage. Et franchement, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment une belle prise de rôle, mais j'ai envie de dire, il faudrait maintenant trouver la production et le chef qui puisse aller avec ce personnage-là.
Parce qu'on n'avait pas parlé encore effectivement du chef. Antonio Papano, c'était pas le chef idéal.
Alors, Antonio Papano, c'est un chef que les chanteurs adorent.
Oui,
c'est
un peu
version Grande-Bretagne, ce que James Levine est pour les États-Unis. Mm-hmm. C'est-à-dire, les chanteurs adorent travailler avec lui. C'est en plus un excellent pianiste, donc il fait très bien répéter aussi. Il accompagne les chanteurs en récital. Enfin, je veux dire, ils ont un lien très fort avec lui. Quand on voit toutes les petites promos du Royal Opera ou ce qu'il dit d'Othello, est formidable. Donc vraiment, on a envie d'aimer ce qu'il va faire. Moi, j'ai plutôt un bon souvenir de son Aïda, oui, qui avait été donnée à Rome et qui a fait l'objet d'un très bel enregistrement. Mais là, alors, Othello, c'est très très compliqué, parce qu'il faut évidemment avoir tout le lyrisme, toutes ces longues phrases, cette manière évidemment d'être dans le rythme et la pulsation, mais toujours avec une impression d'abandon, d'instabilité contrôlée qui est propre à ce chant verdien. Et à la fois, déjà, c'est toujours banal de dire ça, mais tourner vraiment vers une modernité incroyable, parce qu'il y a des harmonies dans l'orchestration. Il y a vraiment des choses dans cet Othello, on se demande d'où ça vient. Donc il faut avoir les deux en même temps, et j'ai tendance à dire là, en tous les cas, pour les représentations, comme je suis un petit peu maniaque, je suis restée à la deuxième aussi, ni l'une ni l'autre, il a ces éléments-là. C'est très raide, c'est horriblement fort. Très, très, très fort. Au mieux, c'est piano dans les passages où il faudrait que ce soit sans p et c'est donc ça tonitrue notamment au début, et comme l'orchestre est plutôt bien, que les chœurs ne le sont pas du tout, c'est même pénible vocalement au début. Donc le fameux exultaté qui devrait être une espèce de jouissance totale, elle l'est en effet pour Kaufmann, mais le reste, moi j'avoue que j'ai même un peu souffert.
C'est vrai que c'était très fort. Alors, c'est vrai que la salle n'est pas immense non plus, mais c'est vrai aussi qu'on a l'impression qu'il a, je parle de Papano, il a, comment dirais-je, conçu ça comme une sorte de course à l'abîme. Alors en même temps, avec des détails d'orchestration qui fait sonner, parce que c'est quelqu'un qui a son orchestre sur le bout des doigts, donc on sent qu'il y a des volontés de mettre en valeur les couleurs, etc. Mais c'est pris dans une sorte de rythmique implacable, j'allais dire, et qui d'une certaine façon casse et empêche qu'on puisse se laisser happer parfois par ses côtés justement scintillants, kaléidoscopiques. Et je me suis demandé si c'était l'effet de la première. Alors Emmanuel vient de donner la réponse en disant ben non, mais je suis également d'accord. On avait entendu effectivement Aïda à Rome, et je me souviens très très bien que l'orchestre était absolument magnifique. Alors c'était aussi l'orchestre de la Santa Cecilia. Donc est-ce que finalement l'orchestre anglais est moins prompt peut-être à saisir les intentions de Papano? Ça je ne sais pas, c'est comme leur directeur musical depuis maintenant un nombre conséquent d'années, donc on peut imaginer qu'il y a quand même des connivences entre eux. Mais on avait quand même effectivement l'impression qu'il y avait un hiatus entre la direction du chef et ce qu'on entendait.
Et enfin, j'ai cru comprendre, à vous écouter, que la mise en scène de Keith Warner ne vous a pas bouleversé.
C'est le moins qu'on puisse dire, non, c'est... Comment dire, c'est là où il y a à la fois des très gros effets, alors l'espèce de hollandais, de vaisseau fantôme qui arrive au début. On a l'impression d'être dans plein d'opéras différents en même temps, avec des, voilà, c'est la direction d'acteurs, c'est juste rien. Hein, c'est, ils arrivent, ils repartent, une fois de dos, et la scène finale où normalement on pleure. Bah, là, c'est, bon voilà, c'est cette Desdémone qui se fait coiffer, puis qui arrête pas de se lever de son lit comme si elle avait un truc qui la gênait, et puis qui fait son air du soul en se rasseyant, se relevant, etc. Enfin, sa chanson du soul, on peut pas entrer dans la dramaturgie, et c'est, voilà, il y a quelque chose de trop caricatural, même le meurtre avec les coussins, les jambes en l'air, enfin c'est...
D'accord.
Non, c'est vrai, en même temps...
Vous avez fait plaire de rire, plutôt que...
Non, on n'a pas envie de rire, non, j'exagère, mais on n'est pas pris, normalement c'est quelque chose qui vous broie, scène, si c'est
forcément
bien fait. Mais il n'y a même pas besoin, il y a besoin de rien, il y a besoin qu'elle fasse sa prière et qu'il arrive, et que cette silhouette qui arrive devant elle, ça suffit. Alors que là, il y a des tas de petites accessoirisations, il passe derrière le lit, après il la poursuit derrière, enfin, il y a un moment où ça fait vraiment
quand
mélo.
Quand vous racontez, en tout cas, c'est drôle, hein, je vous
ça
assure.
Ça fait mélo. Et on n'y croit pas une seconde, en fait. C'est ça qui est terrible.
Emmanuel Giuliani ?
Oui, surtout moi, ce qui m'a gêné, c'est tout à fait vrai, mais du début à la fin, on a l'impression qu'il y a une très mauvaise gestion de l'espace. Et ils entrent par certains endroits, mais ils sortiront par d'autres. Alors, vous me direz, on n'est pas là pour faire le plan de la maison, mais ça compte quand même.
Ouais.
On ne sait pas vraiment si on est dehors ou dedans. Desdemone, avant le fameux air du saule, il y a une sorte de boîte où est le lit. Avec Emilia, sa servante, elles avancent devant, le décor les suit, comme si elles tiraient leur décor. Et puis après, elles entrent dans le décor devant lequel elles ont avancé. Donc c'est
j'ai envie de dire, il y a aussi la planche en hauteur.
Oui, où
Othello va se coucher sur le plongeoir pour entendre ce que sont censés se dire Iago.
Non, je vous assure, ça a l'air drôle. Hein.
Non, et donc finalement,
moi, je me fais des images.
Oui, non, c'est vrai que c'est un peu. C'est
et en plus, c'est une de ces mises en scène où il fait tout le temps nuit.
Oui.
Et ça, je ne comprends pas pourquoi, mais
Parce que c'est sombre, Othello.
Oui, mais Othello, c'est sombre, mais même dans des opéras clairs, il fait nuit. Dans la Cenerentola, il faisait nuit du début à la fin. Il y a un truc avec la nuit.
Ou un truc avec le jour. Peut-être c'est les réductions de budget.
Parce qu'on peut faire des effets plus mélodramatiques.
Oui, mais au bout d'un moment, que la nuit. Voilà. Le pompon étant quand même le lion géant en polystyrène qui traverse la scène. Lui, très
oui. Et qui après se retrouve avec une aile d'un côté, une patte de l'autre, parce que pour symboliser que le lion a été brisé. Donc on retrouve. C'est très fort. Il y a l'idée.
J'imagine que donc il y avait beaucoup de choses sur le bord de votre assiette, Marie Audreau, parce que finalement, vous n'en gardez pas grand-chose, cette production. D'Othello, il y aura certainement un DVD qui nous fera rire le jour où il arrivera. Cet opéra dirigé là par Antonio Papano, mise en scène Keith Warner, mais bon, on retient que c'est Jonas Kaufmann qui ne vous a pas déçu.
Non, moi non.
Et donc c'est jusqu'au 15 juin au Royal Opera House de Londres.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte. Get the right.
J'ai dit quoi, 15 juin ?
Oui.
C'est 15 juillet, hein, parce que sinon on serait carrément en retard. Merci pour cette précision, Marie-Andre. Mais si vous me faites rire, alors du coup je dis n'importe quoi. À suivre dans la dispute, vous me corrigez si je me trompe, Marie-Andre, Handel et Brahms, c'est ça qu'on a prévu ce soir. Hein. Bon, mais avant cela, vous le savez, nous suivons, et c'est la dernière fois, Xavier Martinet dans le petit salon. Et ce soir, mon cher Xavier, d'abord, je vous salue.
De même, bonsoir.
Ce soir, un acronyme,
oui,
DEMOS.
On va réhabiliter une nouvelle notion, une ancienne notion plutôt, c'est utopie, puisque c'est le mot qui revient le plus souvent pour qualifier ce fameux DEMOS, cette expérience d'orchestre de jeunes défavorisés. Ce mot, c'est celui qui est réutilisé par Michel Guérin dans son éditorial du Monde en début de semaine. Il faut dire que ces orchestres sont vraiment un succès très régulier, puisque en 7 ans, le nombre de ces orchestres DEMOS est passé de 4 à 30 en France. Ce sont 3000 enfants de 7 à 14 ans qui sont concernés, de la Guadeloupe à Pau en passant par Montbéliard et Paris. Et comment en effet ne pas être aussi séduit et ému par ces enfants heureux qui jouent de la musique et qui ne l'auraient sans doute jamais pu, ou du moins difficilement. Et puis DEMOS, c'est très joli aussi, c'est le peuple et c'est l'acronyme, vous l'avez dit tout à l'heure, de ce dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale. Un projet défini par l'ancienne ministre de la Culture Audrey Azoulay comme un projet d'émancipation. Alors émancipation, c'est aussi la responsabilisation pour les enfants, puisque DEMOS se présente comme un contrat implicite entre l'enfant et un orchestre qui n'existe pas encore. En fait, contre un don d'instrument pendant une période de 3 ans, l'enfant s'engage à 4 heures de formation par semaine. C'est un concentré de vie en société, écrit Michel Guérin. Et puis DEMOS, c'est aussi, c'est intéressant, l'histoire d'un apprentissage technique et musical qu'on pourrait dire lui-même rénové c'est ce qu'on peut voir à travers les vidéos que la Philharmonie de Paris, qui possède un de ses orchestres, qui anime un de ses orchestres plutôt, met en ligne. Pas de solfège d'abord, qui, je cite Michel Guérin toujours, filtre les élèves au profit de ceux qui viennent des milieux aisés. Pas d'instruments non plus, du moins directement. Alors, on commence par des jeux d'orchestre, des jeux de groupe, des parties chantées, en dansant ce qu'on chante aussi, de sorte à former chez l'élève une mémoire. Après, on passe à la technique instrumentale. Puis, c'est un travail d'ensemble et par pupitre d'instruments. Là, on retombe un peu sur le travail d'un orchestre d'adultes classiques, sans oublier de chanter, là encore, ou danser des parties. La partition, elle arrive seulement la deuxième année. On commence par de la musique baroque pour que le langage harmonique soit plus simple, disait Patrick Toffin, qui est responsable des pratiques orchestrales. Ensuite, on passe aussi aux musiques du monde, là en partenariat avec l'UNESCO. On le voit par exemple avec l'usage à la Philharmonie de Paris de ce Tari Saman, c'est une danse d'Aceh en Indonésie. Après 3 mois, donc, les enfants seulement commencent le travail instrumental. Toujours pour Patrick Toffin, l'arrivée des instruments permet de mettre en lien des actions sonores et une spatialisation qu'on va retrouver après dans le grand orchestre. Et c'est le grand orchestre qui est à l'origine de ce travail, qui va nourrir ce qui se passe à l'intérieur des ateliers. Alors, cela est très bien, mais ça demande un lourd encadrement. 20 musiciens, 2 chefs de chœur et 1 danseur pour la seule orchestre de la Philharmonie de Paris avec 105 élèves. Pendant 6 semaines, l'apprentissage est fait par chef de chœur et danseur. Les musiciens, eux, font entendre des timbres au début pour que l'instrument, justement, devienne quelque chose de personnel à l'enfant, poursuit Patrick Toffin, avant qu'il l'ait entre les mains de façon plus pérenne. Notre objectif, ou un de nos objectifs principaux, est d'aider à la construction du groupe pour que l'enfant se sente partie prenante. Alors voilà, c'est un encadrement lourd, 260 000 euros quand même par an pour cet orchestre de la Philharmonie de Paris. Un financement tripartite quand même assez modèle entre l'État, la région et puis la Philharmonie elle-même, même si c'est beaucoup pour 3 000 enfants, insiste Michel Guérin. Je termine en expliquant que cet orchestre Demos n'est pas le seul du genre ces dernières années en France. Lui-même est inspiré d'une initiative vénézuélienne bien connue, l'orchestre El Sistema. Et il a aussi essaimé en France, cet orchestre El Sistema. Mais il y a aussi l'opération Fine Oreille, dont on pourra reparler, qui est menée depuis 2 ans maintenant avec l'Opéra de Lille. Et El Sistema continue de s'étendre et promouvoir son projet social, comme en Grèce, là où il vient de s'implanter dans des camps de réfugiés. Je vous renvoie à un long reportage de Dominique Boutel sur France Musique. Voilà, finalement, tout n'est peut-être pas aussi simple, car il s'agit, je l'ai dit, d'un choix pédagogique radicalement différent de celui qui est prôné par l'école et les conservatoires. C'est aussi une expérience, c'est expérimental, sans objectif chiffré lourd. Et puis, selon Michel Guérin, on aurait aussi suggéré à Laurent Bell, donc le directeur de la Cité de la Musique, de la Philharmonie de Paris, pardon, de renoncer aux instruments au profit du seul chant. En dernier cours même, on l'accuse d'élitisme pour avoir osé confier des instruments classiques réputés difficiles à des enfants réputés je ne sais pas quoi. Précisément, répond Laurent Bell, c'est la condition de la valorisation plutôt que la flûte à bec obligatoire qui, termine Michel Guérin, dégoûte bien plus de la musique qu'elle n'attire. Alors pour quels résultats musicaux, je vous le dis juste, ce n'est pas l'excellence, souligne Michel Guérin, mais la musique de Mahler ou de Beethoven se reconnaît quand même. Et puis surtout, à la fin, la moitié des enfants semble s'inscrire dans un conservatoire de musique. Alors peut-être l'intérêt n'est-il pas là. Je ne vous demanderai pas si Demos est une réussite et si ça vaut le coup, quoique. Mais qu'est-ce que pourrait apporter en retour cette expérience à la pédagogie musicale, voire plus largement aux politiques de démocratisation culturelle?
Ah, mais il faudrait d'abord qu'il y en ait. Non, je plaisante. Bien sûr. Non, il faudra qu'elle soit développée quand même. Mais bon, il y a un nouveau gouvernement qui s'attelle à la tâche. Donc
oui,
toutes les bonnes idées.
En musique.
Ah,
sont,
voilà,
les,
normalement,
voilà,
la
sont,
musique devrait
les idées
faire
sont bonnes à prendre.
Belle rentrée à l'école. Donc voilà, ce serait dans.
Non, Emmanuel Giuliani.
Il est difficile d'être contre, évidemment. et c'est vrai que c'est une expérience qui, au début de son lancement, a suscité un peu de scepticisme en disant, ben voilà, on va calquer dans une réalité tout autre cette aventure vénézuélienne qui était née, évidemment, dans un contexte géographique,
qui, heureusement
politique,
pour nous,
social,
n'est pas le même.
Etc., qui n'est pas le même. Et puis, on a vu que eh bien, ça se pérennisait, que les musiciens professionnels qui encadraient ces projets continuaient à le faire, et c'était pas uniquement entre guillemets pour se donner bonne conscience et répondre à ces éternelles questions. Vous pratiquez un art élitiste, il faut expier ce terrible péché en diffusant l'art en question. Je suis un peu gênée par la phrase sur le solfège. Jamais on dirait on ne va pas faire de lecture parce que pour des cours de littérature parce que c'est élitiste. élitiste. Je veux dire, le solfège n'est pas plus élitiste, c'est le fait de ne pas pouvoir l'apprendre et généraliser son apprentissage qui peut être élitiste. Mais le solfège en lui-même est une
peut-être
manière
en tout début
de
ne pas commencer et c'est par le sens là. Dans oui. lequel l'entendait Michel oui. Guérin.
Le solfège ayant écouté beaucoup d'enfants inscrits au conservatoire.
Oui, mais là, il faut peut-être se poser une question des méthodes d'apprentissage, etc. De toute façon, tout ce qui remet en effet en question les pédagogies, qui les compare, sachant qu'il n'y a pas de vérité unique, est une très bonne chose. Après, et c'est ça qui est très encourageant, c'est que si un enfant sur deux a envie de continuer et peut le faire et de manière tout à fait normale, naturelle et sans qu'il y ait de frein ni économique ni sociaux à une pratique de la musique, ça évidemment, ça suffit à justifier l'opération.
Oui, parce que j'ai envie de dire parce que parallèlement à cela, y a les actions sur le terrain, donc les enfants sont aussi encadrés par tous les réseaux associatifs, etc. sur le terrain. Mais il y a également beaucoup de conservatoires, et c'est là que ça prouve quand même que dans les conservatoires, on n'est pas complètement borné. Et il y a beaucoup de conservatoires qui se sont ouverts également à l'accueil de ces enfants avant même qu'ils ne s'inscrivent au conservatoire. C'est-à-dire qu'ils se familiarisent avec les locaux, avec le fait de voir d'autres enfants.
Un premier accueil,
Exactement. Donc effectivement, quand tout le monde s'y met, tout le monde est de bonne volonté, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Bien sûr. D'ailleurs, ils avaient tablé sur par exemple, une casse énorme au niveau des instruments, parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même des enfants qui ne peuvent même pas rapporter l'instrument chez eux, par exemple violoncelle, parce qu'il n'y a pas la place matériellement de le mettre dans leur chambre. Donc, les instruments, dans ce cas-là, sont stockés dans des endroits où ils peuvent avoir accès quand ils le veulent. Et donc, ils se sont quand même rendus compte que le bris d'instruments est très minime. Ce qui prouve quand même que les enfants font attention aux instruments qu'on leur confie, et qu'il y a ce sentiment de fierté, d'appartenir à quelque chose auquel, effectivement, a priori, ils n'avaient pas accès, et la fierté de la famille et des parents aussi. Il faut les mères, les pères, les cousins, etc., qui viennent, quand ils venaient alors à Pleyel, puis ça avait commencé à Pleyel, maintenant la Philharmonie de Paris, qui viennent accompagner leurs rejetons, des gens qui, pour certains, n'étaient jamais venus à Paris, alors qu'ils habitent dans les banlieues très proches. Donc, je pense qu'il y a quand même, il y a aussi tout ce lien social qui se fait, qui n'est pas nul, qui n'est pas simplement utopique, qui n'est pas une idée. Ça existe réellement. Alors après, effectivement, assister au concert, comme nous avons tous pu le faire. Et oui, on reconnaît Bizet, on reconnaît. Bon, après, je pense...
Non, mais c'est comme Opéra Junior, quand on est dans le film L'Opéra de Jean-Stéphane Brond, vous voyez ces jeunes gens qui faisaient cet apprentissage. Le concert, évidemment, c'est pas la performance en tant que telle, mais c'est un moment de réunion et de valorisation et d'estime de soi. C'est quand même une chose absolument essentielle. Vous voyez, Martinet ?
Oui, c'est un aspect extrêmement important de ce genre de programme d'expérimentation. Et finalement, si on se pose la question de savoir s'il y aurait peut-être une concurrence entre deux dispositifs pédagogiques, un ancien et un nouveau, sans doute pas, puisqu'ils se conçoivent beaucoup comme des stages finalement, et vous le suggériez un peu, Marie-Aude, des stages, des initiations, même longues de toute façon, mais qui ne comptent pas se substituer à des formations, et c'est très clair par exemple dans le cas de l'opération Fine Oreille à Lille. Alors là aussi, il n'est pas question d'instruments, mais ils choisissent 200 élèves des quartiers défavorisés pour produire deux ou trois fois par an, je crois, un opéra, soit que ce soit une création, soit que ce soit des reprises. Ça ne coûte pas très cher, c'est 15 000 euros de la part de la DRAC pour ce qui était des financements 2015, et ça fonctionne, là encore, nous mesurons déjà les effets en classe, cela a donné aux enfants une certaine assurance, a créé du lien social avec des familles aussi, qui n'entraient pas à l'école, disait l'adjointe à l'enseignement de Marc Ambarol.
Tout ça sur la base du volontariat, et peu de défections finalement, par rapport au...
Et puisqu'on est à Radio France, il faut rappeler aussi que la maîtrise de Radio France a bondi, c'est...
Exactement ce principe.
Et voilà, c'est exactement ce principe, et là aussi avec un niveau d'excellence qui là est tout à fait réel. Donc vraiment, toutes ces initiatives, en effet, comme vous le dites, il faut qu'elles se surajoutent, qu'elles dialoguent entre elles et surtout qu'elles ne s'opposent pas les unes aux autres.
Beaucoup de bonne volonté. Ben voilà, et donc c'est la bonne volonté Xavier Martinet aussi que je remercie parce qu'il a suppléé l'absence provisoire de Lucille Comeau pour tenir ce petit salon jusqu'à la fin de la saison. Lucille qu'on salue bien sûr avec sa petite famille et qu'on retrouvera à l'automne, pas tout à fait à la rentrée, mais grand merci à vous.
C'était Xavier avec Martinet. Plaisir avec vous tous et vous toutes aussi.
Bon, je vous laisse fermer le petit salon.
Voilà, au revoir chers auditeurs.
Le deuxième sujet à notre affiche ce soir, c'est un DVD, Le Triomphe du Temps et de la Désillusion de Handel, dirigé par Emmanuel Haïm. C'était la mise en scène de Christophe Wajkowski qu'on avait pu découvrir à Aix-en-Provence l'été dernier. Handel compose cet oratorio en 1707, réutilisé par la suite la partition dans plusieurs de ses œuvres. Quatre personnages allégoriques, le temps, la désillusion, la beauté, le plaisir, qui se livrent un combat dont deux sortiront vainqueurs, oratorio composé pour Rome sur un texte du cardinal Benedetto Pamphili, parce qu'un édit papal, rappelons-le, interdisait les représentations d'opéra à Rome. On va écouter Un pensiero nemico di pace par Sabine de Vielle. Je vous le dis, c'est une drogue dure pour moi. Je pourrais écouter ça en boucle toute la journée. Ça m'arrive quelquefois. On avait évoqué rapidement au début de saison, qu'on ferme la saison avec cet opéra. C'était un peu un retour d'Aix-en-Provence. J'avais dit combien j'avais été fasciné par le travail de Christophe Varikovsky, parce que donner une vision scénique à un oratorio, la tâche était quand même difficile. Et puis, on le disait à l'époque, on va y revenir. Moi, j'avais jamais entendu Emmanuel Haïm à ce niveau. Maintenant qu'on a le DVD pour le prouver... On n'avait pas les oreilles défectueuses, hein, Marie Audron.
Ah non, là, on est vraiment, on est dans
un niveau d'excellence.
Ah oui, on est dans la pure jouissance de la musique et tout ça est à la fois précis, enlevé, chaud, articulé. Enfin, vraiment, on est heureux. Mais alors, je faisais partie des gens qui n'avaient pas été complètement conquises par cette mise en scène que je trouvais un peu, j'allais dire Varlikovskienne. Oui, certes, mais avec les tics qu'on connaît, mais qui là, effectivement, avec le DVD, disparaissent parce qu'il y a beaucoup de gros plans, il y a beaucoup de coupes, il y a assez peu de plans d'ensemble, pour tout dire. Et du coup, ce qui m'avait gêné pendant le spectacle, là, se trouve au contraire concentré. Et là, on peut aussi. La direction d'acteur est juste extraordinaire. Il n'y a rien à dire, c'est magistral. Mmh. Magistral. Les scènes, la façon dont les choses à la fois s'imbriquent, se répondent, etc. Franchement, on voit là le grand dramaturge Varikovsky. Et voilà, j'ai envie de dire, c'est peut-être fait pour le DVD.
Alors, si vous avez envie de le dire, comme je le dis toujours, vous le dites.
Je sais.
Mais c'est vrai qu'on a entendu, la voix extraordinaire et la précision folle de Sabine Devienne, qu'on ne cesse de louer, mais c'est de sa faute. Mais on voit là quelle comédienne elle est, parce que là, pour le coup, le gros plan sert. C'est vrai que ce début, il a fait chanter un peu à l'écart du plateau, auprès de cet arbre de la cour de l'archevêché. Ça donne des gros plans absolument saisissants. Alors, sur ce DVD,
Emmanuel Giuliani... Moi, j'avais au contraire beaucoup aimé cette mise en scène.
Curieusement, c'est pas votre metteur en scène fétiche, pourtant. Hein.
Pas toujours, mais ça peut l'être. Et là, j'avais trouvé vraiment une très très belle mise en scène. Et surtout, on vient de parler d'Othello, où la relation entre les personnages est quasi inexistante, alors que vraiment, c'est servi sur un plateau. Et là, au contraire, a priori, il ne devrait pas y avoir de psychologie et de relation entre les personnages, puisque ça n'en est pas.
Un discours d'idées. Hein.
Exactement. Eh bien, on arrive à avoir, sans que ce soit... Si, c'est appuyé, bien sûr, mais sans que ce soit surappuyé, vraiment un faisceau de relations changeantes, violentes, tendres, désespérantes, magnifiques, et tout ça, tout le temps, comme un kaléidoscope où chaque zone se met en contradiction et à la fois en osmose avec les autres, c'est vraiment absolument éblouissant. Et justement, je veux me poser la question, ayant aimé cette mise en scène en la voyant assise, immobile et avec un plan unique et pour cause comme au théâtre, est-ce que les gros plans, les coupes, tout ce que vous avez évoqué, Marie-Aude, n'allait pas un peu me vendre la mèche là où j'avais été contente d'être encore dans le mystère? Eh bien non, parce qu'en fait, apparaissent plein de détails qui sont tous magnifiques. Et là, évidemment, où on sent le très très grand travail du théâtre, c'est non seulement des détails et des expressions des protagonistes quand ils sont en train de chanter et d'agir, mais aussi quand ils ne le font pas.
Bien sûr.
Et évidemment, ça change absolument tout. Et en plus, la réalisation suit très intelligemment la musique sans la paraphraser. Donc c'est vraiment bien fait. Je ne mettrai qu'un petit bémol, mais c'est la faute de personne, sinon qu'on est passé du spectacle vivant au cinéma, à la vidéo, c'est que les lumières de ce spectacle étaient absolument somptueuses. Et justement, dans le plein air d'une nuit provençale et dans un archevêché du XVIIIe siècle, on avait un contraste absolument saisissant. Évidemment, sur l'écran, on l'a moins.
Oui, oui.
Et pour cause, puisqu'on est dans un média où ce type de lumière est moins étonnante. Mais ça c'est... Voilà.
Mais on est plongé au cœur vraiment du drame, en fait. Absolument. Puisque là, on est vraiment dans un drame humain. C'est ça qui est très beau aussi, c'est qu'il y a une humanisation totale de toutes ces formules allégoriques, d'une certaine façon. Et là, l'autre petit bémol, mais ça, je pense, il n'y rend quasiment à tous les DVD, c'est qu'on ne voit jamais, malheureusement, les musiciens dans la fosse, et on ne voit jamais diriger et c'est dommage parce que Emmanuel Haïm aurait vraiment, vraiment mérité d'être vu dans ce DVD.
On est d'accord, c'est Stéphane Medge, on l'a pas dit.
On l'aperçoit vaguement dans une sorte de reflet à un moment, mais...
Dans un élément de décor, mais c'est pas vraiment lui qui est... Donc Stéphane Medge qui a réalisé cette captation. Alors, pour moi, c'est comme toujours avec lui, d'ailleurs, beaucoup trop découpé à mon goût quand même, parce que notamment, alors je goûte les gros plans parce qu'effectivement il y a un travail de direction d'acteur prodigieux, mais il y avait quand même toute une occupation de l'espace quasi mathématique par Maïkowski, puis on ne saisit pas toujours la distance qu'il y a entre les protagonistes, elle est aussi importante que la proximité, donc ça je trouve qu'on le perd, voilà, il y a pas assez de plans d'ensemble qui prennent un peu de temps. C'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui, voilà, c'est son style. Il a ses qualités. Pour moi, il y a évidemment certains défauts, mais c'est quand même merveilleux que ce DVD nous arrive, parce que c'est un bijou.
Puis bon,
la
pléiade de chanteurs là-dedans. Ouais, on parlait de Sabine de Vielle, mais bon, enfin, entre Franco Fagioli, qui est aussi dans son
extraordinaire.
Genre. On voit un petit peu l'éthique d'ailleurs, mais c'est quelqu'un qui. Mais en même temps, c'est touchant. C'est le travail de la musique sur ce visage, musculairement, c'est quelque chose de
moi, je trouve ça. Sarah Mingardo qui nous plonge dans le cinéma. Italien de l'après-guerre,
Michael...
fabuleuse,
Michael Spice. Le secrétariat de la désillusion, en fait.
Oui,
c'est juste extraordinaire. Ça fait...
Bon, c'est une très très bonne nouvelle donc, que ce spectacle connaisse cette édition DVD et Blu-ray, le mérite bien, chez Erato, ce triomphe du temps et de... Comment c'est en français ?
La désillusion
des Ingano. Cet oratorio de Handel dirigé magnifiquement par Emmanuel Haïm, mis en scène par Christophe Varlikowski.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte. Get the right.
Et le troisième sujet de cette dispute, c'est un disque, celui que le baryton Christian Gerhaher et le pianiste Gerold Huber viennent de graver avec la belle Maguelone, 15 Lieder de Brahms, composé en 1860. Avant que d'en parler, écoutons donc un extrait de ce disque, le Lied numéro 11, je le dis là encore en français, « Comme lumière et clarté disparaissent vite ».
Weggebracht
Voilà pour cet extrait de ce disque de la belle Maguelone, la Maguelone, la cathédrale de Maguelone, près de Montpellier, que j'aime tant. C'est d'après cette légende que Brahms compose ses 15 Lieder. Marie Audroux, sur cet enregistrement.
Alors là, c'est un lamento, en fait. Il faut savoir que il y a 15 Lieder, donc c'est un cycle, mais pas comme les cycles schubertiens ou schumanniens, c'est entrecoupé de textes qui sont dits. Alors, cette œuvre n'est pas facile, elle n'est pas souvent donnée d'ailleurs en concert, il faut bien le dire, justement à cause de cette particularité. C'est comme une sorte de mini-opéra sous forme de Lieder.
Un conte chanté.
Ouais. Et ce lamento est intéressant parce qu'en fait, c'est le seul Lied qui est censé être chanté par Maguelone, précisément. Mmh. Mais tout est chanté, évidemment, par le baryton. Mais en fait, il y a différents personnages et le baryton doit faire les différents personnages. Et je trouve qu'ici, Gerhard, évidemment, on a par contre pas le côté très explosif. C'est quelqu'un qui peut aussi avoir une voix extrêmement puissante et très colorée. Mais on a cet art vraiment du dire, la façon dont chaque mot est coloré, cette messa di voce qui est extraordinaire. Et je trouvais que, voilà, c'est quelqu'un qui a tellement ce talent, qui est un talent rare, parce qu'on a beaucoup de barytons qui chantent très bien, les Lieder. Hein. Mais là, on a vraiment une intelligence du texte, on a vraiment quelque chose, la façon dont même les diphtongues sont modelés, il y a des choses, tout est extraordinairement sensible, intelligent, tout est dans le texte, il y a absolument aucun moment où tout à coup la voix prend le dessus sur la musique. On est vraiment dans une forme d'intériorité et de mise en valeur, et avec le pianiste qui est de la même aune, hein, tous les deux, on sent qu'il y a une osmose entre eux qui est absolument extraordinaire. Donc voilà, on se disait tout à l'heure avec Emmanuel, juste avant que c'était, je me posais la question de savoir pourquoi ce baryton n'était pas plus connu en France, et on se dit que c'est peut-être tout simplement une question de réseau ou de programmation, parce que c'est quand même peut-être actuellement le plus grand chanteur de lead au monde. Donc, et on est très content puisque justement, Daniel Harding, nouveau directeur musical de l'Orchestre de Paris, l'a en plus qu'en sympathie et a l'intention de le programmer assez souvent à Paris. Donc, voilà, c'est quelqu'un qu'il faut vraiment découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas.
Bah, oui, en effet. Et c'est vrai que cette connexion, forcément, entre le chanteur et le pianiste est extrêmement importante. L'extrait que vous avez choisi, Mario, le donne à entendre de façon absolument évidente ici.
Oui, c'est un très très beau duo. Ils travaillent ensemble depuis de longues années. D'ailleurs, il y a beaucoup d'enregistrements Schubert, Schumann, Mahler, etc. Et puis donc ce Brahms, où on les entend ensemble. Et ils ont le même... Alors, c'est toujours idiot dans une forme aussi artistique et artificielle, au meilleur sens du terme, de dire qu'ils ont un extraordinaire naturel. Mais c'est l'impression que l'on a quand on est auditeur. Si on se dit cette voix, certes c'est une voix travaillée, il a dû travailler comme un fou, mais on a l'impression que toute personne qui a envie de bien dire un texte devrait avoir cette voix-là. Mmh. Et ce piano-là, on ne sent pas derrière des heures et des heures d'exercice d'arpège et de gamme, mais une espèce de flux.
Bon, on imagine dans un salon, il y a une cheminée, un truc crépite, ils sont là tous les deux.
Ils font plaisir. Voilà, exactement.
Ils sirotent leurs bras tranquillement.
Mais c'est à peu près ça. Et c'est parce que c'est cela que les moments que vous évoquiez de violence, puisqu'il y a par exemple entre, si je me trompe pas, entre les leaders 9 et 10, une très très grande rupture. On a une berceuse d'un côté et puis du désespoir après. Donc on a aussi de très forts contrastes qui sont quasi opératiques. Et puis après on a ce qu'on vient d'entendre, qui est une espèce de fontaine qui coule et on trempe les mains et on est heureux. C'est vrai que plus on peut avoir d'occasion au disque, à la radio, en live évidemment, d'entendre Christian Gerhard, et plus il faut les saisir, parce que c'est un artiste étonnant, c'est aussi un très grand chanteur d'opéra. J'ai eu la chance de l'entendre il y a peu de temps dans le Wolfram de Tannhäuser, et c'est un Wolfram absolument éblouissant, parce qu'il sait donner beaucoup de volume, et à la fois sa romance à l'étoile C'est ça, c'est ce qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire, c'est, et comme il était accompagné par Kirill Petrenko, là, c'était... Bon, pareil, voilà, c'était
la cheminée, le salon,
voilà, c'était tout était sublimissime. Là. Mais c'est aussi un fabuleux Péléas, ce qu'on sait moins, avec une diction du français comme vous et moi. Non, c'est un chanteur vraiment tout à fait exceptionnel, très, une grande intelligence musicale. Et comme c'est pas du tout une star, qu'il est peu médiatisé, qui
fait... Il a quel âge, ce garçon?
Il a 47.
L'âge de Jonas Kaufmann,
pas la même notoriété.
On répète mais son nom. Également munichois, ce qui prouve que l'école de chant munichoise, c'est pas mal, Et donc, vraiment, et puis ça permet de découvrir cette œuvre qui, comme vous l'avez dit, se livre peut-être moins facilement que d'autres cycles de mélodies ou de leaders, mais absolument magnifique. Et le piano, toujours avec ce côté de flux, comme si les barres de mesure étaient toutes souples. Elles sont là, mais pas pour contraindre, elles sont là au contraire pour accompagner la pulsation, ce qui fait que vraiment on se laisse embarquer et à nouveau la cheminée, le
et puis aussi un piano qui parfois peut être presque symphonique, hein. On a déjà en germe ce que seront après les leaders pour orchestre, c'est quelque chose de très complexe dans l'écriture brahmsienne pour certains des leaders, et pareil, la même impression de facilité, de clarté on va redonner le nom
Gerold Huber.
Huber. J'imagine, si l'allemand, on va lui mettre son vous.
Gerold Huber.
Huber. Et donc, un duo absolument formidable.
Et Christiane Gerhard, vous l'avez déjà entendu en vrai, vous, Marie Audreau?
Eh bien, je n'en suis pas sûre, pour tout vous dire. J'ai vu qu'il avait été programmé dans le cadre
À la Cité de la Musique, il a donné des
malheurs. Vous en souviendriez, peut-être.
Mais, mais il me semble que vous étiez... je crois qu'on était...
Attention, on va tout savoir.
Un très beau récital, Schubert-Wolfgang Grimm, qu'ils avaient donné autour de textes de Goethe, qu'ils avaient donné à l'amphithéâtre, à l'auditorium.
C'est la fin de l'année, c'est horrible.
Il est temps que ça s'arrête. Ce qui tombe bien, c'est l'affaire de quelques minutes. En tout cas pour la dispute et pour cette saison. Bon, on ne peut que recommander fort chaleureusement ce CD. Alors, vous le dites en allemand, vous, le vrai titre?
Die Schöne Magellan.
C'est bien, c'est facile ça. Et les interprètes?
Alors, eh bien, notre ami Christiane Gerhaer et Gerold Huber.
Très bien, et c'est un CD qui paraît chez Sony. Avant de conclure cette émission, cette saison, le jeu de la dispute, un jeu qui commence par le rappel de la question d'hier au soir pour que Justine Diebling, qui nous a rejoint, nous en donne la réponse. Question-réponse, Justine.
La question était, quel peintre a dit « La couleur est la touche, l'œil est le marteau, l'âme est le piano aux cordes nombreuses et l'artiste est la main qui met l'âme humaine en vibration ?» Et la réponse était Kandinsky.
Et ce soir, à faire gagner des passes pour visiter le château des Ducs de Bretagne à l'occasion du festival Le Voyage à Nantes, qui commence demain, 1er juillet, qui dure jusqu'au 27 août. Quelle est la toute dernière question de cette saison, Justine?
Anne de Bretagne, fille de François II, a résidé dans le château des Ducs de Bretagne. Quelles sont les dates de son règne?
Et cela, vous ne serez plus là pour donner la réponse, Justine. Et donc, c'est l'occasion aussi de vous remercier pour nous avoir accompagnés tous ces mois dans la dispute. Mais les éditrices, auditeurs qui ont la réponse, eux, peuvent nous écrire en indiquant aussi leurs coordonnées postales et envoyer tout cela par courriel à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations sur cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, site sur lequel vous pouvez également réécouter ou podcaster nos émissions, site sur lequel vous pouvez nous écrire. Je vous donne rendez-vous le lundi 28 août pour une 7e saison de la dispute avec quelques surprises pour tenter de remplir davantage encore notre mission de service public et vous proposer plus de regards critiques sur la très vaste actualité culturelle. Vous en saurez plus dans quelques jours, soyez attentifs. D'ici là, bonne fin de soirée à l'écoute de France Culture, bel été à toutes et à tous. À 22h15, les discussions du soir et dans quelques instants, le journal de la rédaction.